Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Et on se retrouve aujourd'hui pour Histoire de savoir. On va parler d'un phénomène qui nous a presque tous touchés il y a quelques années, il n'y a vraiment pas longtemps d'ailleurs. C'était durant la crise Covid et c'est le télétravail. Peut-être que certains d'entre vous font encore du télétravail un ou plusieurs jours par semaine. On va en tout cas voir quelle est cette généralisation du télétravail en région de Bruxelles, capitale, avec trois invités qui viennent de différents horizons. Alors Mathieu Strahl, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes chercheur en géographie à l'ULB.
Oui.
Alors il y a également Nathan Pudless, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes chercheur en psychologie du travail à l'ULB aussi, mais évidemment c'est une émission sur basé à l'ULB, donc voilà. Et Claire Duchesne, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes chercheur en économie au DULBEA, qui est le centre de recherche d'économie appliquée à l'ULB. C'est bien ça? Je ne me suis pas trompée.
Ouais. Non, c'est ça.
Voilà, donc on voit que vous avez donc travaillé ensemble dans un souci intertransdisciplinaire, je ne sais pas très bien. Alors, d'où vient cette idée de travailler déjà dans différentes disciplines sur le télétravail?
Eh bien, en fait, on a commencé à travailler sur cette question en 2021 avec l'équipe de Claire, donc économie appliquée et les géographes, à la demande de la région bruxelloise qui se posait déjà la question de cet impact du télétravail avec à ce moment-là très peu de recul. Et donc plus tard, quand on a voulu s'interroger sur la suite du travail, on a rencontré cette fois l'équipe de Nathan qui elle aussi se posait la question de l'impact du télétravail, mais plutôt sous l'angle, cette fois, des impacts psychologiques et psychosociaux, individuels et collectifs. Et donc, par la force des choses, on s'est retrouvés à travailler avec ces trois centres sur cette question du télétravail dans le cadre d'un projet Innoviris. Donc, c'est un projet financé par la région de Bruxelles Capitale avec ce qu'ils appellent un angle prospectif. Donc, l'enjeu, c'est d'essayer d'envisager les futurs possibles, plutôt moyen-long terme, donc 2040, 2050, de différentes problématiques et nous, de la problématique du télétravail sous l'angle des impacts sociaux.
Voilà, et donc comment est-ce que vous avez travaillé sous forme d'enquête, comment vous avez pu aboutir à cet article qu'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui dans Brussels Studies?
Je dirais qu'il y a différents volets dans l'étude. Il y a une enquête qui est réalisée, mais ici, cet article-ci, c'est plutôt une revue de la littérature, principalement, pour poser les bases, savoir où on en est au niveau du télétravail actuellement et quels sont les enjeux. Et par la suite, il y aura d'autres articles. L'enquête, elle est plutôt menée par l'équipe de Nathan, l'équipe des psychologues. Et puis, il y aura tout le volet prospectif qui suit aussi, mais qui n'est pas encore abordé ici dans l'article.
Ok, donc c'est que le début du boulot.
Exactement. Exactement,
oui. Donc vous allez revenir une prochaine fois dans Histoire de savoir pour poursuivre la discussion. Le télétravail, ça existait déjà avant le Covid?
Oui, tout à fait. Donc on voit que c'est une organisation du travail qui se développait progressivement dans différents secteurs, qui connaissaient une croissance assez régulière déjà avant la période de Covid et les mesures liées à la prise en charge de la pandémie, mais que par contre, cette période-là a donné un coup d'accélérateur, finalement, à une tendance lourde déjà en cours.
Et ça restait ciblé aussi sur certaines professions. Avant la crise, c'était certains profils qui faisaient du télétravail, alors que durant la crise, ça s'est vraiment élargi à plein de nouveaux métiers et nouveaux secteurs.
En fait, il n'y a pas eu le choix non plus.
Oui, oui.
Et donc ici, vous avez étudié plus ce qui s'est passé après, finalement, la pandémie. Après cette fameuse crise Covid, est-ce qu'on retrouve les mêmes chiffres qu'avant ou non? En fait, là, le télétravail est devenu une je ne vais pas dire la norme, mais presque.
Le télétravail est resté une certaine norme dans tout un pan de métiers qui sont télétravaillables. Donc on a maintenant les professions type plutôt administratives qui ont commencé à télétravailler pendant le Covid, qui n'avaient pas accès au télétravail avant, qui continuent maintenant à avoir accès au télétravail. Donc maintenant on est plus sur une fréquence de télétravail qui est à 1-2 jours par semaine et qui est utilisée par, je pense, une quarantaine de pourcents de la population bruxelloise post-Covid. Donc il y a une augmentation de plus ou moins 20%, on est à 18% en 2019, donc il y a comme une grosse évolution après Covid. Ouais.
Mais il y a une légère diminution entre la crise Covid et la stabilisation. Ça a légèrement diminué, mais quand même, ça reste plus élevé que ce qu'on avait avant.
Ouais. Et ça, je ne sais pas si vous savez répondre peut-être à cette époque-ci. Est-ce que c'est quelque chose qui continue à augmenter ? Est-ce que c'est un pourcentage qui continue à augmenter, donc cette proportion de personnes qui télétravaillent ? Ou est-ce qu'on est dans une sorte de stagnation et c'est difficile à imaginer une augmentation pour la suite ? Ça, c'est prospectif, évidemment. C'est
alors,
pour la suite.
Alors, ça, c'est plutôt, oui, c'est la suite. Donc, pour l'instant, ce qu'on voit dans les études qui se posent ces questions-là, c'est qu'on envisage, en tout cas, pas un retour en arrière complet. Donc, effectivement, comme l'ont dit Claire et Nathan, il y a eu une forme de stabilisation dans certaines professions, un retour au travail. Ben, on peut penser, par exemple, ici à l'université, où les cours sont plutôt revenu en présentiel, mais pour autant, dans beaucoup de professions, il n'y a pas eu de retour en arrière, et donc les perspectives, c'est plutôt une stabilisation ou une poursuite de la hausse du recours au télétravail, que ce soit le nombre de travailleurs concernés ou les jours, on a une sorte de consolidation et une poursuite du développement de cette organisation du travail.
Et donc finalement, ce que vous allez étudier, c'est donc les effets sociétaux, et donc il y en a plusieurs. Et donc le premier, c'est que finalement, quel est l'impact du télétravail sur l'emploi et l'activité économique ? Et là, j'imagine que je me tourne vers Claire Duchesne.
Il y a différents effets. En premier lieu, on peut regarder ce qui se passe au niveau de l'employeur, au niveau plus micro. Pour lui, c'est à la fois un défi de mettre en place du télétravail et d'organiser le travail au niveau du management quand il y a du télétravail. Mais c'est aussi une opportunité de faire diminuer les coûts des mètres carrés de bureau. Aussi, on peut imaginer que s'il n'y a personne qui vient le vendredi, par exemple, ben, ça fait des économies en termes d'énergie. Donc il y a une opportunité, et puis ça fidélise aussi les travailleurs. C'est un avantage en plus qu'on offre dans un contrat, de dire vous avez la possibilité de faire du télétravail. Et en même temps, si on regarde au niveau plus macro, il y a des effets au niveau de la demande et l'offre de travail. Le fait de permettre le télétravail, ça permet aux gens de se dire qu'ils vont prendre un travail qui est situé plus loin, qu'ils n'auraient pas pris avant parce que la navette aurait été trop lourde. Mais là, s'ils doivent venir une ou deux fois par semaine, ça devient acceptable. Et dans l'autre sens, les employeurs vont pouvoir aller chercher des travailleurs qui sont situés plus loin. Même si, en réalité, c'est plutôt les travailleurs qui sont très qualifiés qui bénéficient de cet avantage-là. Les autres, les travailleurs peu qualifiés, eux vont pas spécialement voir les avantages du télétravail, soit parce qu'ils font pas de télétravail, ils ont une profession qui n'est pas télétravaillable, parce qu'ils vont voir aussi leurs collègues télétravailler et eux ne pas le faire, et donc il y a une sorte de déséquilibre dans les conditions de travail. Et puis aussi parce qu'ils risquent d'avoir leur emploi délocalisé, il y a des professions qui sont supprimées, donc eux vont peut-être plus voir les désavantages de la généralisation du télétravail.
On ne l'imagine peut-être pas, mais en fait le télétravail va peut-être creuser les inégalités sociales quelque part.
Entre ceux qui sont qualifiés, et très qualifiés et peu qualifiés, il y a une augmentation des inégalités qui est probable à cause du télétravail.
Et peut-être des emplois qui vont disparaître également, oui, à cause du télétravail.
Tout ce qui est emploi de bureau, en fait, à Bruxelles, il y a quand même pas mal de centres où on a plein de bureaux. Mais s'il n'y a plus personne qui vient, on peut penser à la Commission européenne, par exemple. Si les gens ne viennent plus qu'une fois par semaine ou deux fois par semaine, mais c'est plein d'emplois qui sont supprimés. Par exemple, le gardiennage, le nettoyage, tout ce qui est restauration aussi. Donc il y a quand même une reconfiguration du tissu économique lié au télétravail.
Et donc vous parlez d'un effet donut aussi. Ouais. J'ai retenu ça parce qu'évidemment, ça parle de donuts. Et voilà, on est toujours un peu basique.
C'est un effet, enfin, on appelle l'effet donut, c'est le fait que les activités sont déplacées du centre. Du centre-ville vers la périphérie. Donc il y a des biens et des services qui sont plus consommés dans le centre parce que les gens ne sont plus dans les bureaux. Mais comme ils sont en télétravail, ils vont peut-être consommer des services en périphérie. Et donc il y a des nouveaux consommateurs en périphérie, même si les proportions ne sont peut-être pas équivalentes. Et puis le temps que la demande se déplace et que l'offre se déplace, il y a un décalage, mais on parle d'un effet donut du centre vers la périphérie.
À vous entendre, on a l'impression que le centre de Bruxelles va devenir un no man's land où il n'y aura plus personne, plus de commerce. On n'en est pas là, évidemment.
Non, c'est à nuancer, évidemment, mais c'est ici, on met en avant des effets potentiels. En plus, on n'a pas vérifié dans les faits que ces effets étaient avérés, mais on met en avant les risques potentiels pour la région.
Risque potentiel pour la région, donc au niveau de l'immobilier aussi. Donc, on sait bien que le centre de Bruxelles, principalement, peut-être pas les 19 communes, mais oui, le centre de Bruxelles. Et il y a énormément de bureaux. On en voit déjà aujourd'hui qui sont inoccupés. C'est quelque chose qui risque de s'intensifier, alors, ces bureaux vides dans l'avenir.
Alors, c'est effectivement donc, l'avantage majeur potentiel pour une entreprise du télétravail du point de vue immobilier, c'est la réduction des surfaces de bureaux en utilisant plutôt des bureaux partagés plutôt que des bureaux individuels, en permettant en fait, de réduire le nombre de mètres carrés par travailleur et donc tous les coûts liés à l'espace de bureau, que ce soit l'entretien, le chauffage, la location, etc. Et donc, effectivement, là aussi, la tendance au recentrage dans les entreprises qui recourent au télétravail et à la sous-traitance était déjà visible, par exemple, dans le secteur bancaire et tend à apparaître dans d'autres secteurs. On voit l'Union européenne qui se sépare d'une grande part de ses bureaux, les plus anciens, les moins bien localisés.
À Audergame, par exemple.
Tout à fait. Mais aussi maintenant dans le quartier de la rue de la Loi. On voit ça dans le secteur bancaire, ça se poursuit, donc avec un recentrage sur les implantations les plus proches du centre-ville et dans les bureaux les plus récents. On voit la Régie fédérale des bâtiments, donc l'administration fédérale, qui envisage aussi de se séparer d'une grande partie de ces bâtiments plus anciens. Et donc, ce que le télétravail risque d'induire dans ce secteur-là, c'est une accélération d'un phénomène qui est déjà visible, qui est une obsolescence plus rapide des bureaux moins bien localisés, soit parce qu'ils sont plus loin du centre, ou plus anciens et donc moins adaptés aux technologies actuelles. Alors, ça veut dire que dans ces bureaux-là, on risque d'avoir effectivement une plus grande part de bureaux vides. Par contre, ça n'empêchera pas la continuation de la construction de bureaux récents. Ça va sans doute accélérer le cycle. Et ça aussi, on le voit. On voit qu'on continue à construire des nouvelles surfaces de bureaux, par exemple dans le quartier Nord, autour de la gare du Midi. Et en même temps, on a une grande part des bureaux à Bruxelles qui sont vides. Ça, c'est une tendance lourde qui risque de s'accélérer. Et donc la question qui va se poser, c'est que vont devenir ces bureaux vides? On voit par exemple le fonds public fédéral d'investissement qui va racheter des centaines de milliers de mètres carrés de bureaux à l'Union européenne. Pour en faire quoi? Ça va être une question politique. Est-ce qu'on va en profiter pour répondre à des besoins de logements abordables, à des questions de besoins d'infrastructures scolaires, de crèches, d'infrastructures pour les personnes âgées? Tout ça, alors, c'est en fait, on bascule dans la question que vont devenir ces quartiers centraux bruxellois et que vont devenir aussi les bureaux plus excentrés. Vous parliez des bureaux de la commission à Audergame. Ça, c'est une des questions. Que faire de ces bureaux le long d'un viaduc routier
qui va disparaître,
qui va,
enfin peut-être.
La petite carte en plastique que l'État m'a donnée. Ah ouais, je l'ai bien méritée. Naître en République dans une clinique chauffée. Ah ouais, je l'ai bien mérité. Les bancs de mon école, le pouvoir d'étudier. Ah ouais, je l'ai bien mérité. Aller voir mon docteur quand je me sens fatiguée. Ah ouais, je l'ai bien mérité. La douceur de l'enfance, l'amour qu'on m'a donné. Bah ouais, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Bah oui, pardi, on me l'a toujours dit. Mon sang, c'est sûr, c'est la loi de la nature. C'est l'évidence, t'avais qu'à mettre en France. La flor.
Non, mais c'est aussi toutes des questions qui se posent également par le fait que le télétravail va induire peut-être une plus grande, un plus grand exode. Je ne sais pas si on parle de rural, hein, mais en tout cas, des travailleurs bruxellois. C'est déjà un mouvement qu'on connaît aujourd'hui, mais il y a une tendance des ménages, des familles à s'expatrier en dehors de Bruxelles, ce qui va peut-être être accentué par le télétravail, mais qui est expliqué aussi par le fait qu'en dehors de Bruxelles, c'est moins cher.
Alors, oui. Je pense qu'il faut nuancer aspects, mais c'est important. Mais effectivement, c'est un phénomène qu'on voit. Donc, historiquement, les travailleurs classe moyenne supérieure, vont habiter en périphérie à Bruxelles. C'est un phénomène qu'on voit depuis l'après-Deuxième Guerre mondiale et qui est même historiquement plus ancien de cette propension des travailleurs belges à faire la navette et à habiter en périphérie des villes. Et ça a été facilité par la généralisation de l'utilisation de l'automobile, etc. Alors, effectivement, ce phénomène existait déjà avant l'utilisation du télétravail. Le télétravail pourrait être un facteur qui accélère cela. Et quand on observe les derniers chiffres, on voit qu'il y a une accélération du départ des familles de Bruxelles vers la périphérie. Pour autant, la population bruxelloise, au cours des 20 dernières années, a augmenté, mais plutôt parce qu'elle a une démographie qui est plus jeune, hein, donc il y a plus de familles avec enfants, et parce que Bruxelles est la porte d'entrée des populations étrangères, européennes et non européennes. Mais donc cette dynamique de sortie des travailleurs vers la périphérie ne s'est jamais arrêtée. La question, c'est est-ce qu'elle va s'accélérer ou pas, en sachant que le profil des télétravailleurs est déjà le profil des gens qui quittaient Bruxelles pour aller habiter en périphérie parce qu'ils ont les moyens d'acheter un logement. Après, la périphérie aussi devient plus chère et ou plus éloignée. Et là, le télétravail peut avoir un impact. On pourrait imaginer que les gens acceptent d'aller vivre plus loin de leur lieu de travail parce qu'ils font moins souvent la navette. Après, c'est un thème qui est très débattu dans la littérature, que ce soit en Belgique ou en général, parce que entre le désir d'aller habiter ailleurs et la capacité financière ou la capacité à même sociale à le faire et donc à trouver une nouvelle école, rompre avec les liens de travail ou les liens culturels, etc., il peut y avoir un gap. Mais effectivement, le Bureau fédéral du plan, quand il envisage les impacts du télétravail à moyen long terme, estime que ça va plutôt amener les gens à aller habiter plus loin de leur lieu de travail et notamment plus loin de Bruxelles, oui.
Ce qui pose des questions aussi en matière de mobilité.
Tout à fait. Alors c'est toujours, le domaine, disons, la partie géographique du projet. Effectivement, un des enjeux du télétravail, c'est la question de la mobilité. Alors, a priori, quand le télétravail s'est généralisé, notamment pendant la période Covid, beaucoup ont imaginé que ça allait être plutôt un facteur de réduction des déplacements, avec l'idée du monde d'après où on se déplacerait moins. Dans la pratique, en fait, quand on regarde la structure du télétravail en général et à Bruxelles en particulier, c'est une structure de travailleurs qui ont un emploi stable, qui ont un emploi de service, plutôt dans des grandes entreprises, avec des horaires plutôt fixes. Et on voit aussi que le télétravail est d'autant plus pratiqué qu'on habite loin de son lieu de travail. Et tous ces facteurs-là, en fait, ils correspondent pour Bruxelles et en fait en général à une forte utilisation des transports publics, parce que c'est des emplois de service, c'est des emplois qui sont plutôt concentrés à Bruxelles aux abords des grandes gares. Et donc le premier impact du télétravail sur la mobilité, ça a été plutôt la réduction de l'utilisation des transports en commun, plus que la réduction de l'utilisation de la voiture. Parce que, au contraire, les emplois non télétravaillables sont des emplois où le recours à la voiture est très élevé. On peut penser aux infirmières, aux infirmiers, au personnel de nettoyage, à tous les emplois qui ne se font pas dans un bureau fixe, à tous les emplois qui ne se font pas à des horaires où il y a des transports en commun. On voit aussi qu'on recourt plus à la voiture quand on habite en périphérie proche, et que donc, et qu'on a une voiture de société aussi, par exemple. Et donc, tous ces éléments-là font que, pour l'instant, le télétravail a plutôt comme impact de réduire l'utilisation des transports en commun, plus que de réduire l'automobile. Et alors, après, il y a toute la question des effets rebonds dont Claire a commencé à parler. Une fois que on ne consomme plus sur son lieu de travail, mais plutôt sur son lieu de vie, qu'on fait ses courses plus proche de chez soi, ben peut-être qu'on va les faire plutôt en voiture et hors de la chaîne de déplacement qui pouvait être une chaîne de déplacement en train pour aller au travail. Si on vit plus loin de son lieu de travail, ben les jours où on doit quand même venir, le trajet sera plus long. Et donc, tous ces éléments-là font que, de nouveau, a priori, la tendance est plutôt à une augmentation des déplacements et plutôt à une augmentation des déplacements en voiture.
Et du déplacement des déplacements, puisque en fait tout ce qui est loisirs et courses finalement qui se faisaient principalement le week-end, on les retrouve maintenant plus en semaine finalement, on profite
et
du télétravail.
Semaine,
pour,
oui. Et donc effectivement, et ça c'est un élément qu'on voit aussi, on voit que que ce soit dans la fréquentation des transports en commun ou sur le trafic routier, autant aux heures de pointe on n'a pas retrouvé le niveau disons d'avant le Covid, autant le soir, en journée, le week-end, les volumes de déplacement et le trafic sont plus élevés et continuent à augmenter. C'est à ces heures-là que le trafic augmente le plus. Et donc se pose la question, est-ce qu'il faut recomposer l'offre de transport en commun, etc.
Ce qu'on voit aujourd'hui avec, je ne fais pas une polémique sur les travaux, mais avec tous les travaux qu'il y a autour de Bruxelles, on se rend compte que finalement, il n'y a pas moins de voitures qu'avant. Ce fameux monde d'après, finalement, il était complètement utopique. On imaginait un monde d'après qui, finalement, le monde d'après, il est devenu le monde d'avant. On est revenu au même point, finalement, presque.
En tout cas, de nouveau, enfin, ça pose la question politique de comment prendre en charge cette question du télétravail. Et c'est un peu, en faisant cette synthèse dans Brussels Study, c'est un peu cette idée de sensibiliser, en fait, le monde médiatique, scientifique, politique, sur les enjeux du télétravail en général. Et de ne pas imaginer que, par la force des choses, ce télétravail peut être nécessairement bénéfique ou négatif. C'est, en fait, un changement d'organisation qui a tout plein de conséquences dans différentes dimensions.
Et pas toujours que positif ou que
Exactement.
Négatif. Et entre autres, sur la personne, en fait, sur la personne, sur le travailleur, la travailleuse, également, on a des impacts. Le télétravail, on se dit c'est cool, on reste à la maison. Finalement, le télétravail, c'est pas si cool que ça quand on reste à la maison. Pas que.
Ça dépend, ça peut avoir des avantages et des inconvénients. En fait, tout dépend un peu de comment il est implémenté. Mais tout d'abord, j'aimerais revenir sur la période pré-Covid, où on parlait beaucoup justement de l'isolement professionnel, de l'isolement des travailleurs. Mais à l'époque, c'était une situation différente où il y avait une minorité de travailleurs qui avaient accès au télétravail, que ce soit au travers des organisations ou au sein des organisations. Et du coup, on pouvait effectivement assister à ce type d'isolement. Les outils de collaboration, les outils de visioconférence n'étaient pas aussi développés. Ils se sont vraiment grandement développés pendant le Covid pour pallier justement à ce manque de collaboration présentielle. Et donc maintenant, on se retrouve avec des alternatives au présentiel. On a Teams, ou des outils similaires qui sont grandement utilisés dans les entreprises, dans les organisations. Maintenant, le télétravail, par rapport au bien-être, si on regarde ça du point de vue de la conciliation vie privée et professionnelle, tout dépend de comment il est implémenté. Donc effectivement, ça permet de réduire les déplacements, donc ça permet potentiellement soit de se lever plus tard, soit de commencer sa journée plus tôt. On peut se dire « chouette, je finis de ma journée de travail plus tôt ». Ce n'est pas forcément le cas. En fait, le télétravail peut au contraire contribuer à l'intensification du travail, parce qu'on commence à travailler plus tôt, mais la journée ne se finit pas forcément plus tôt. On diminue aussi le nombre de pauses. L'augmentation, la flexibilité permise par le télétravail permet d'intercaler des événements de vie privée, on le voit avec l'augmentation des déplacements en dehors des heures de pointe. Ça permet d'intercaler des événements de vie privée dans la journée de travail, mais ce qui veut dire aussi qu'on finit par terminer la journée de travail plus tard, on finit par travailler en débordement, ce qui peut avoir aussi un impact significatif pour le bien-être.
C'est ça, c'est qu'en fait, une fois qu'on télétravaille, on ne sait pas quand on commence, on ne sait pas quand on finit. Et finalement, il n'y a plus. Est-ce qu'il y a encore une frontière entre
Exactement.
Le travail et le.
Les frontières deviennent beaucoup plus floues en télétravail. On a une théorie des frontières en psychologie du travail, ça traite des frontières physiques, des frontières temporelles et des frontières psychologiques. En télétravail, on n'a plus de frontières physiques parce que le lieu de travail est sur le lieu de domicile. C'est encore pire pour les personnes qui n'ont pas accès forcément à une pièce de travail dédiée. Donc je pense notamment à ceux qui vivent à Bruxelles, qui généralement ont des logements plus petits, qui en plus ont des enfants à la maison potentiellement. Donc on se retrouve à travailler dans le salon ou dans la chambre. Et donc ce n'est pas possible en fait de faire une coupure entre la fin de la journée de travail et... c'est plus difficile de faire une coupure entre la fin de la journée de travail et le début de la journée privée, entre guillemets. On a la frontière temporelle, donc avec cette augmentation de la flexibilité, l'intercalement des événements de vie privée avec des événements de vie professionnelle affaiblit grandement cette frontière temporelle. Et on a la frontière psychologique, l'affaiblissement des frontières physiques et temporelles rend de facto beaucoup plus compliqué de se détacher psychologiquement de son travail en fin de journée, surtout si on travaille dans le lieu de vie.
Alors il y a aussi, vous parliez donc d'augmentation de la charge de travail, ce qui est étonnant parce que... Je me souviens, pendant le Covid, il y a eu quand même toute cette question de comment on va contrôler que les travailleurs travaillent bien chez eux et que donc finalement, peut-être que le télétravail allait amener une baisse de la productivité. En fait, on assiste au contraire.
Bah, en fait, ce qui a été remarqué, c'est qu'on a globalement une augmentation de la productivité. C'est sur des études qui ont été menées tant avant Covid que pendant Covid. Ça s'explique par différents mécanismes. Premièrement, on a l'augmentation de la productivité de l'initiative du travailleur. C'est une forme en fait, de rétribution pour la possibilité de télétravailler parce que c'est considéré aussi comme un confort, ce qui est à certains égards vrai. Et on a l'augmentation en fait, de la charge de travail simplement du fait des besoins de croissance, l'augmentation de la productivité. Du coup, la charge de travail augmente. Et surtout, si on voit que le télétravailleur est plus performant en télétravail, on peut augmenter graduellement la charge de travail. De cette manière-là.
Et augmenter le télétravail.
c'est plus l'aspect prospectif des choses. On a aussi de nouvelles formes de contrôle qui apparaissent, parce qu'en théorie, effectivement, le travailleur a plus d'autonomie, tant physique que temporelle, que sur la gestion de ses tâches. On peut, par exemple, avoir la démultiplication de rendez-vous en Teams, en visioconférence, pour contrôler effectivement que le travailleur... et bien au travail. Et en fait, ça aussi, ça peut contribuer à l'élongement des gens et travail, parce qu'on se retrouve avec avoir un tel nombre de rendez-vous, de visioconférences, et une démultiplication des échanges par mail aussi, par souci de collaboration, qu'on se retrouve à devoir travailler soit au début de journée, soit en fin de journée, parfois même le week-end, quand la charge de travail est particulièrement élevée.
Est-ce que finalement le télétravail est une demande du travailleur aussi? Parce que vous parlez également d'isolement, c'est-à-dire qu'on est en télétravail, mais on travaille tout seul, non, ou en Teams, mais c'est pas fabuleux. Il faut quand même bien avouer que c'est pas le truc le plus génial. Même si pendant la crise Covid, il y a des gens qui se mettaient sur Teams pour travailler ensemble, ou des étudiants qui étudiaient ensemble sur Teams, c'était assez hallucinant. Mais il y a quand même l'isolement, parfois on n'a pas toujours des super collègues, c'est bien clair, mais quand même si on n'a pas de super collègues, c'est quand même...
Justement, ça c'était un aspect intéressant d'une recherche sur télétravail, c'est pré-Covid, on n'a pas des super collègues, le télétravail ça permet justement de récupérer, de ne pas avoir à interagir avec ses collègues, et de se mettre un peu en retrait, et d'un peu s'isoler. Maintenant, la question de l'isolement volontaire, entre guillemets, est un peu redéfinie aussi avec les outils de visioconférence, où les rendez-vous se démultiplient. Effectivement, la démocratisation, l'augmentation de l'utilisation de ces outils repose un peu la question de l'isolement, et ça, c'est un peu des résultats qu'on va investiguer avec notre étude quantitative. On n'a pas vraiment encore de réponse maintenant. Les études qui sont parues actuellement traitent surtout des questions pendant le Covid, et donc on n'a pas vraiment de résultats post-Covid. Mais à mon avis, le fait que le télétravail se soit beaucoup démocratisé va diminuer cette sensation d'isolement, cette sensation d'être mis de côté par ses collègues, parce que justement tout le monde, dans les entreprises qui utilisent le télétravail, plus ou moins tout le monde a le même vécu.
Oui, mais il y a un manque de contact humain quand même quelque part, alors non ? Moi, j'aime bien aller dans la salle des profs entre deux cours.
Il y a une certaine perte de contact humain, effectivement.
Ça va dépendre de l'intensité qui est choisie. Quoi. Si c'est un jour ou deux jours de télétravail, ça permet peut-être justement de faire des temps de pause ou de faire du travail plus concentré. Tandis que si on a cinq jours de télétravail, là, je pense que les effets négatifs apparaissent beaucoup plus rapidement.
En termes d'isolement.
Ouais. Ouais. Et puis alors, ce qui est étonnant, enfin ce qui est étonnant peut-être pas en fait, c'est que ça a un impact également sur la santé des télétravailleurs, télétravailleuses.
En fait, quand on est sur le lieu de travail, on va prendre une petite pause café, etc. Interruption par les collègues. Quand on est en télétravail, on est globalement, ces pauses en fait diminuent, donc on se retrouve à être constamment assis à son bureau avec des risques du coup d'augmentation de troubles musculo-squelettiques dû à une mauvaise posture qui est souvent la norme quand on a un travail de bureau. syndrome métacarpien, je sais pas quoi. Force de
oui, le coup de la souris, ouais,
ça, voilà.
La maladie de la souris, là où je sais pas quoi.
Tendinite, tendinite au poignet, ce genre de choses, qui peuvent potentiellement augmenter en télétravail parce qu'on a moins d'interruptions, on est plus concentré, plus sur son ordinateur que si on est au bureau.
Alors, vous avez utilisé un terme qui m'a complètement halluciné dans votre dans l'article, c'est le workaholisme. Je me suis demandé si c'était de l'alcoolisme au boulot, du coup à la maison, ou si c'était le fait d'être accro au travail.
C'est exactement ça. C'est
d'être
accro au travail, c'est le fait de ne pas savoir se détacher de son travail, mais dans une version assez néfaste en fait. De même que dans tous les types d'addictions.
C'est vraiment une addiction au travail.
C'est une addiction au travail. Et en fait, on travaille par besoin, mais pas par plaisir. Donc, quand on est workaholic, on retire peu de plaisir de son travail, mais on a ce besoin de travailler. Comme quand on est alcoolique, on retire finalement plus vraiment de plaisir du fait de boire, mais on a le besoin de boire.
Ok. Et c'est vraiment, c'est quelque chose qui a été défini.
C'est quelque chose qui a été défini. C'est une vraie problématique. Après, on a l'autre pendant qui est l'engagement au travail. La distinction entre les deux fait un peu débat, mais l'engagement au travail, c'est le fait d'être énergique dans son travail, ouais. D'avoir beaucoup de vigueur, d'être absorbé par son travail. Et du coup, workaholic, fortement engagé, workaholic aussi, très fortement absorbé dans son travail, a du mal à mettre des limites. Et du coup, les workaholics auront tendance justement à travailler en débordement, à même travailler le week-end.
Moi, je pensais justement le côté burn-out, parce que finalement, ça peut mener au burn-out, j'imagine. Là, je fais encore un résumé. Moi, je fais des synthèses. je fais des raccourcis peut-être un peu rapides. Je pensais justement, avec le principe du télétravail, on allait moins arriver à ce côté de burn-out. Mais en fait, c'est quasi le contraire qui risque d'arriver.
De nouveau, ça dépend un peu comment le télétravail est implémenté. Si on assiste à une intensification du travail temps du fait de l'organisation qui augmente la charge de travail, qui démultiplie les rendez-vous Teams parce que c'est un moyen de contrôler ses travailleurs, et de l'autre côté, les travailleurs qui se sentent un peu obligés ou non, mais d'augmenter leur rythme de travail, ça va effectivement favoriser l'épuisement, sachant qu'on a des problèmes en télétravail de frontières temporelles, physiques et psychologiques, ce qui ne permet pas vraiment de se détacher, ce qui rend plus difficile le détachement en télétravail, et du coup de récupérer de son travail, par exemple, le fait de ne pas pouvoir se détacher correctement influence la qualité du sommeil, et du coup ça diminue la capacité de récupération, et sur le long terme ça peut contribuer à l'épuisement et donc potentiellement au burn-out.
Voilà, donc en fait le télétravail c'est comme le reste, faut pas en abuser.
Exactement.
Alors le dernier point que vous développez dans votre article, c'est le télétravail et l'impact sur les finances publiques. Alors j'étais un peu dubitative parce que c'est un truc auquel je pensais pas du tout. Mais voilà, après je suis pas chercheuse, je suis pas économiste, je suis juste journaliste. Et donc quel est cet impact sur les finances publiques?
Ouais, en fait, c'est peut-être quelque chose auquel on ne pense pas, mais comme le télétravail affecte plein d'aspects de la vie, on vient de le dire, ça affecte la mobilité, la façon dont on habite, la façon dont on travaille, ça affecte la santé, et donc, par défaut, ça aura aussi un effet sur les finances publiques. On a essayé de mettre en avant cet effet-là en gardant juste l'effet brut, parce que il y a aussi un effet net, mais ça devient beaucoup. Il y a beaucoup de si, il y a cet événement-là qui arrive, il y a plein de conséquences possibles sur les finances publiques. On a essayé de lister les effets potentiels, mais on n'a pas de preuves non plus, on n'a pas assez de recul que pour dire que le télétravail a tel effet sur les finances publiques. Mais potentiellement, il y a des réductions de recettes fiscales assez importantes sur différents volets. Si on pense aux surfaces de bureaux, s'il y a moins d'entreprises installées à Bruxelles, ça fait une diminution des recettes de précompte immobilier. Si on a les ménages qui quittent Bruxelles, particulièrement des ménages plutôt aisés, ça fait aussi des recettes fiscales qui diminuent, l'impôt sur les personnes physiques, des recettes d'immobilier aussi. Il y a potentiellement des effets positifs, mais plus difficiles à repérer. Si on dit qu'il y a moins de mobilité, il y a aussi potentiellement moins de besoins d'infrastructures ou de dépenses en mobilité. Mais c'est à nuancer par rapport à ce que Mathieu a dit. Est-ce que la mobilité au niveau de l'automobile diminue vraiment? C'est pas vraiment l'effet qu'on anticipe. Donc il y a différents effets. C'est difficile de regarder l'effet total au final. Mais potentiellement, il y a quand même des diminutions de recettes importantes. Et ce qui est problématique, c'est que c'est principalement pour Bruxelles, parce qu'on ne l'a pas évoqué, mais c'est la plupart des télétravailleurs sont à Bruxelles.
Mmh. Pourquoi est-ce qu'il y a cette différence entre Bruxelles et le reste ?
je dirais principalement par la nature des emplois bruxellois, beaucoup d'emplois de service et donc beaucoup d'emplois télétravaillables. Il y a beaucoup de gens qui font la navette aussi, qui sont en périphérie, mais qui vont travailler à Bruxelles. Donc voilà.
Ok. Et donc, des diminutions de recettes. Et alors, vous parlez aussi de concevoir la ville, d'y habiter, de s'y déplacer autrement. Quelle est en fait, on y habite moins. Ou alors, ça devient la ville, enfin, la ville, la capitale, en fait, Bruxelles, redeviendrait plus une... Non, ça, c'est vraiment utopique, hein, mais un truc plus de loisirs, en fait.
Ouais, on y habite moins, mais c'est aussi que les déplacements sont changés, comme on disait tout à l'heure. Bah, avant,
ça se voit pas, hein, pour l'instant, là.
Oui, mais ils sont peut-être organisés à d'autres moments, quoi. Ou avant, on allait consommer à côté de son lieu de travail, que maintenant, on consomme plutôt proche de son domicile, qui peut être à Bruxelles. Mais donc, on utilise la ville différemment et les services différemment.
C'est vrai que ça, on imaginait... Enfin, voilà, moi, j'imaginais pas du tout cet impact de voir la ville autrement, enfin, de l'habiter, de la vivre autrement. Alors, donc, vous en êtes là pour l'instant donc, au premier tiers de cette... Ça, c'est le premier tiers de cette recherche. Vous êtes déjà beaucoup plus avancé. Donc, c'est un article qu'on peut retrouver sur Brussels Studies et qui s'intitule donc, « Généralisation du télétravail en région de Bruxelles-Capitale ». Quelle est la suite maintenant de cette recherche transinterdisciplinaire?
Je dirais la première étape, ça va être l'analyse des résultats quantitatifs et du coup...
D'une enquête que vous avez faite alors.
D'une enquête qu'on a menée, dont on a récolté les répondants. Analyser dans une optique de réactualiser un peu les savoirs qu'on avait déjà avant Covid et dans un contexte bruxellois, de voir un peu que donne le Covid, le télétravail maintenant.
Le Covid, on va l'oublier.
Que donne le télétravail maintenant? Quels sont les effets sur le bien-être des travailleurs? Quelles sont leurs pratiques en fonction notamment de leur habitation? Quelles sont leurs pratiques? Quelles sont leurs influences sur leur consommation? Ce genre de choses.
Et ensuite, je crois qu'il y avait un troisième volet là, qui était plus...
Le volet prospectif. Ouais. Oui, l'idée, c'est de faire des scénarios d'évolution du télétravail et surtout des effets du télétravail d'ici 2050 sur Bruxelles. Okay. Donc, essayer d'imaginer différentes versions du télétravail et comment est-ce que ça affecterait toutes les dimensions qu'on a abordées ici pour Bruxelles.
Et donc, tous les résultats, à chaque fois, toutes les étapes, vont faire l'objet d'un article sur Brussels Studies ou ici, c'est aussi sur Open Edition.
Oui, ou d'autres revues en fonction aussi des disciplines, hein, parce qu'on travaille dans trois disciplines différentes.
Ouais, oui.
Donc, il peut y avoir aussi des aspects plus théoriques. Mais donc, effectivement, l'objectif, c'est que les résultats soient accessibles pour le public bruxellois en général, puisque ça traite en particulier de ces enjeux-là.
Alors, vous dites trois équipes. Là, j'ai trois personnes devant moi. Je sais que dans les signataires de l'article, vous êtes pas loin du double. Ça fait combien de personnes qui travaillent sur ce sujet-là? Ça, c'est juste une question.
Sept.
Ah, ça va. Je crois que vous allez me dire 40. Non, ça va. Ça reste. Eh bien, voilà. En tout cas, donc. Allez voir cet article, allez le lire, généralisation du télétravail en région de Bruxelles-Capitale sur le site Brussels Studies, qui en fait reprend pas mal d'articles en fait, de recherche universitaire, essentiellement sciences humaines si je ne m'abuse. Et donc, est-ce que vous seriez d'accord de revenir d'ici quelques mois pour la suite de vos aventures de télétravail? Voilà, donc on vous retrouve dès que vous avez du nouveau, en fait, on vous réinvitera dans Histoire de savoir. Donc c'était bel et bien Histoire de savoir aujourd'hui. On parlait donc de la généralisation du télétravail avec Mathieu Strahl, Nathan Pudless et Claire Duchesne. Merci beaucoup à vous.
Merci
et
merci.
Bonne continuation et à très bientôt alors. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Forcé de ramper pour moi, à quatre pattes dans leurs armures. Ils se traînent dans les bois, ils meurent d'amour sans foi. Je souhaite qu'ils n'y arrivent pas, de vains efforts avant le trépas.